Radio Kapi.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette autre session d'actualité sur Radio Kapi dont voici le sommaire. Le deuxième trimestre de l'année scolaire a effectivement commencé aujourd'hui après la période des fêtes de fin de l'année civile 2025. L'inspecteur général à l'éducation nationale qui a fait une ronde dans quelques écoles de Kinshasa s'est dit satisfait du début de cette autre phase de l'année scolaire. Mais dans ce journal, vous pourrez aussi suivre les nouvelles des provinces à ce sujet. Le M23 et les Wazalendo se battent toujours dans la province du Sud Kivu. Le week-end, ces affrontements ont provoqué 4 morts et certaines maisons détruites. Le conseil provincial de la jeunesse de la province du Maniema a dernièrement organisé une table ronde pour faire un état des lieux de la province. Nous y revenons dans un instant avec l'invité de notre journal. Bonsoir à tous et quelques nouvelles de l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo pour ouvrir ce journal. Les Léopards jouent en ce moment même contre l'Algérie leur match des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue depuis 2 semaines au Maroc. Les deux équipes sont à égalité, 0 but partout pour le moment. Ouvrons alors le chapitre enseignement de cette session d'actualité. L'inspecteur général à l'éducation nationale note avec satisfaction la reprise de l'année scolaire après les fêtes de fin d'année. Hubert Kimbonza a fait ce constat à la suite d'une ronde d'inspection effectuée aujourd'hui au complexe scolaire Nyota et au collège catholique Alimba à Kinshasa. Il se dit également ému que ses élèves aient intériorisé le serment de citoyen. Preuve, selon lui, que le pays aura, dans les jours à venir, les Congolais respectueux de la chose publique. Les propos de Hubert Kimbonza au micro de Blaise Ndongala.
Cette fois-ci, nous avons voulu beaucoup plus sillonner et vérifier si les enfants sont en train d'intérioriser le serment du citoyen. Reprendre les enseignements à temps signifie aussi qu'on est un bon citoyen. Et nous étions au complexe scolaire Nyotala. Je sors vraiment très très content. Les enfants de 7e ont récité le serment du citoyen. Nous avons voulu même tester s'ils maîtrisent ce serment du citoyen par des exemples. Ils ont eu à donner des explications pour chaque élément de ces serments et je suis resté très ému, très content de voir que avec cet élan que nous avons dans 6 ans, sûrement nous aurons des bons citoyens congolais qui vont respecter la res publica, respecter la chose publique, respecter tout ce qu'il y a comme engagement et nous n'aurons pas des amis et des frères qui vont pouvoir vendre leur dignité à cause de l'argent.
L'inspecteur général à l'éducation nationale a par ailleurs profité de cette ronde pour exhorter les candidats finalistes du cycle secondaire à bien se préparer à l'examen d'État et à éviter les antivaleurs, notamment la corruption. Et malgré cette satisfaction de l'inspecteur général à l'éducation nationale, à Nitouri, les élèves d'une 50aine d'écoles primaires et secondaires de la localité de Boulé, dans le territoire de Djougou, n'ont pas repris le chemin de l'école aujourd'hui après les vacances de fin d'année. En cause, les affrontements qui opposent depuis près de 3 semaines les FRDC à la milice Convention pour la Révolution Populaire, CRP, en sigle de Thomas Lubanga dans cette entité. La société civile locale appelle les deux partis à privilégier l'intérêt de la population. Élise Kavira.
C'est peu avant Noël que les écoles ont fermé leurs portes à Boulé à la suite des combats quasi quotidiens entre les FARDC et le groupe armé CRP. Selon la société civile locale, la situation sécuritaire n'a cessé de se détériorer pendant les vacances de fin d'année. Cette insécurité a contraint la quasi-totalité de la population à abandonner les milieux pour se réfugier autour du camp des militaires ougandais à la périphérie des Boulé. Ce mardi matin, jour pourtant prévu pour la reprise des cours, aucune école n'a ouvert ses portes. Pire encore, la reprise des activités scolaires reste incertaine, déplore la société civile, qui craint une année blanche pour les élèves de la zone. Cette structure citoyenne appelle les deux parties à privilégier l'intérêt de la population. Signalons que des centaines d'écoles ne sont plus opérationnelles dans le territoire de Djougou à la suite des exactions des groupes armés depuis 2017.
Dans la province du Nord Kivu, la solidarité communautaire de lutte contre le tribalisme en RDC lance dès aujourd'hui une campagne d'encadrement en faveur des enfants déscolarisés. Il s'agit surtout des enfants des familles fuyant les affrontements dans cette région et qui se sont relocalisés en chefferie de Buito, en territoire de Rutshuru. La Sokolut RDC annonce l'ouverture de 3 centres de rattrapage scolaire à Kiwanja et à Kanyabayonga avec l'objectif d'y accueillir au moins 150 enfants du niveau de l'éducation de base. Cependant, son chargé de programme appelle à un soutien urgent, rappelant que ces activités sont menées avec les moyens très limités. Écoutons Clovis Kambalé.
Dans la zone de santé de Kibirizi, il a été retrouvé plusieurs enfants déplacés qui ont quitté, notamment dans le groupement Mutanda à Ikobu, où il y a eu des affrontements pendant la période scolaire et que les enfants sont quittés brusquement et ils n'ont pas aucun document, aucun matériel scolaire qu'ils utilisent. D'autre part, les écoles de la zone exigent par trimestre 10 000 francs pour le paiement scolaire et que les familles n'ont pas de capacité pour payer ces frais-là. Ce qui fait que les enfants sont restés dans les villages sans reprendre le chemin de l'école. C'est pourquoi nous avons aussi une idée d'organiser des centres de rattrapage scolaire pour encadrer ces enfants du point de vue éducationnel, mais aussi du point de vue psychologique. Étant donné que le besoin est tellement immense, c'est pourquoi nous demandons des partenaires pour qu'ils nous viennent en appui et que ces activités puissent être étendues dans d'autres localités.
Dans la province du Maniema, la rentrée scolaire s'est déroulée timidement dans la province éducationnelle Maniema 1. Selon son directeur qui a effectué une ronde dans plusieurs établissements, très peu d'élèves se sont présentés en classe aujourd'hui. Il appelle les parents à envoyer leurs enfants à l'école afin qu'ils entament ensemble le deuxième trimestre. Reportage signé Florence Kiza.
Dans le riz ce matin, les élèves en uniforme bleu et blanc étaient peu nombreux. Ceux que nous avons rencontrés se disaient toutefois heureux de reprendre les chemins de l'école.
Après des semaines de repos, je retourne à l'école avec force. Moi aussi, c'est heureux de reprendre encore l'école. Moi, je vais voir mes amis, ma maîtresse.
Le directeur provincial Muto Balingen et Jacques invitent les parents à ne plus garder les enfants à la maison.
Dans certaines écoles, justement, certains élèves ne sont pas arrivés. Donc, je demande aux parents d'envoyer les enfants à l'école, puisque ça ne sert à rien de les garder à la maison. Nous avons 222 jours sur le calendrier scolaire, et les 222 jours doivent être pleins pour les enfants. Nous avons des programmes à achever, et les enfants doivent respecter les 222 jours inscrits au calendrier scolaire.
De son côté, le ministre provincial de l'éducation, Mère Amarungu, rassure les enseignants qui rencontrent encore des difficultés liées au paiement de leur salaire.
Nous sommes sans ignorer que les enseignants ont beaucoup enduré, traversé des difficultés liées à leur salaire, et je tiens à rassurer à tous les enseignants du Maniema que leur situation sera améliorée d'ici au mois de février 2026.
Par ailleurs, nous apprenons que les enseignants du Maniema 2 ont déclenché un mouvement de grève ce même mardi 6 janvier. Depuis Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Au Kasaï oriental, de nombreux enfants en âge scolaire, dont les parents sont aveugles, ne vont pas à l'école. Certains accompagnent leurs parents dans les rues pour mendier de quoi survivre, tandis que d'autres sillonnent les comptoirs de diamants et les devantures de boutiques à la recherche de moyens de subsistance. La division provinciale des affaires sociales indique avoir organisé des rencontres et des séances de sensibilisation pour encourager les parents aveugles à se faire accompagner par leurs conjoints, hommes ou femmes, afin de permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité. Explication de Esther Dalafina.
Andy Beya, âgé de 11 ans, est l'aîné d'une famille de 6 enfants. Il est contraint de parcourir 10 à 15 kilomètres par jour avec son père pour mendier. Il n'a jamais terminé une année scolaire malgré la gratuité de l'enseignement primaire.
Nous allons commander dans des terrasses, au marché, dans des comptoirs de diamants. Par jour, on peut avoir 9 000 francs. Il y a des jours, on totalise 15 000, même 5 000. Si on ne commande pas, on ne mange pas à la maison.
Stanin Tumba, 14 ans, parvient à fréquenter l'école et accompagne son père pour commander après les cours. Sa scolarisation lui permet d'acquérir quelques bases en français.
La phrase impérative, la phrase exclamative.
Bien avant d'atteindre l'âge de 15 ans, les enfants des parents aveugles assument déjà une double charge. Témoignage des parents.
Je n'ai rien à faire. Quand ils vont à l'école, je suis bloqué à la maison.
Le chef de division provinciale des affaires sociales, François Mukendi, s'est dit préoccupé par l'abandon des cours par les enfants issus des parents aveugles.
La place de l'enfant, c'est à l'école. Il avait été convenu que ces leaders des associations de personnes malvoyantes puissent convaincre leurs pères à se faire accompagner par leur époux ou par leur épouse.
Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Dans la province du Sud-Kivu, au moins 4 morts et plusieurs personnes civiles blessées lors des affrontements entre les Wazalendo et le M23 dans 3 groupements du territoire de Walungu. Les combats qui ont commencé dimanche se sont poursuivis jusque hier lundi, principalement dans les villages de Bumbalali, Mwendo et Shiravani. Plusieurs maisons ont été endommagées par de bombes larguées par le M23, selon les habitants, dont l'un d'eux témoigne des affres vécues durant 48 heures. On l'écoute.
Dans le territoire de Walungu, en chefferie d'Engweshi, entre les groupements de Walungu, d'Ikoma et celui d'Izegui, il y a eu des affrontements depuis le dimanche 4 janvier 2026 entre l'AFS M23 et les Wazalendo. Ces affrontements ont commencé depuis le dimanche à partir de 14 heures. Et on continue encore hier, lundi, le matin, jusqu'à même à 15 heures. Cela a causé même des pertes en vies humaines, des civils qui ont été tués par des balles perdues. Et déjà, les bilans fait état de 4 civils déjà morts et d'autres blessés. Un grand déplacement massif de la population de cette entité vers Walungu Centre et d'autres vers Ibona. Nous demandons quand même qu'il y ait respect de ce cessez-le-feu parce que c'est la population qui est en train de subir quand il y a perte en vie humaine pendant les affrontements.
En plus bref, en territoire de Masisi, dans la province du Nord Kivu toujours, la situation est restée relativement calme mais extrêmement volatile aujourd'hui dans plusieurs localités des secteurs de Katoi et Ososo-Banyungu. Ce, après les affrontements survenus hier autour de Kazinga, localité située à la limite entre ces deux entités coutumières. Selon les sources civiles locales, les rebelles du M23 qui avaient réoccupé Katoi dimanche tente de progresser vers le groupement d'Oufamandou. Leur avancée a déclenché de violents échanges de tirs presque toute la journée d'hier avec les combats du groupe Pareco. Les combats se sont concentrés principalement dans les villages de Kazinga et Mouloulou, situés dans le groupement de Nyamaboko Ier. D'après ces mêmes sources, cette nouvelle flambée de violence aggrave la situation humanitaire, perturbant les activités socio-économiques ainsi que la poursuite des cours dans les écoles de la zone. Un nouveau drame fluvial a encore frappé la province de l'Équateur. Il a eu lieu dans la nuit d'hier à aujourd'hui entre la chaufferie de Bolumba et le village de Bukuma. Une pirogue motorisée transportant des passagers est entrée en collision avec une baleinière, provoquant un bilan humain encore non déterminé. Le panel des experts de la société civile de l'Équateur qui livre cette information appelle les autorités à des actions immédiates pour gérer cette situation et renforcer la sécurité sur les voies navigables. On écoute Christophe Yoka, son coordonnateur provincial, au micro de Benjamin Moudoumbi.
La société civile exprime sa profonde consternation suite à un nouvel accident fluvial tragique survenu cette nuit entre la chefferie de Dianga dans le territoire de Bolumba et le village Bukuma. Une pirogue motorisée transportant des passagers est entrée en collision avec une baleinière. Le bilan humain reste encore incertain, mais l'émotion est immense. Encore un drame de trop qui vient rappeler l'urgence d'une véritable politique de sécurité sur nos voies navigables. Nos rivières ne doivent plus être des cimetières silencieux. Le panel appelle les autorités nationales à agir avec responsabilité et à mettre en place un plan d'urgence fluviale et à protéger la vie des Congolais partout, y compris sur l'eau.
Dans la province du Congo central, les maladies cardiovasculaires ont causé plus de 1000 décès sur les 57 185 cas enregistrés en 2025. La division provinciale de la santé qui livre ces chiffres indique que ces pathologies représentent la deuxième cause de la mortalité dans la province après le paludisme. Selon le chef de division provinciale de la santé du Congo central, les maladies cardiovasculaires à l'origine notamment d'accidents vasculaires cérébraux et d'insuffisance cardiaque sont principalement liées au régime alimentaire et à la sédentarité. Pour réduire leur incidence en 2026, le docteur Bonheur Tshiteku recommande à la population du Congo central d'adopter une alimentation équilibrée et de pratiquer régulièrement des exercices physiques. On écoute docteur Bonheur Tshiteku, chef de division provinciale de la santé du Congo central, au micro de Nana Plurichemambe.
Donc, parmi ces maladies cardiovasculaires, l'hypertension qui vient en tête, nous avons fini l'année avec 57 185 cas. Conséquence, ce sont les accidents vasculaires cérébraux et aussi l'insuffisance cardiaque. Sur les 57 185 cas, il y a eu 1193 décès. Et dans nos statistiques, c'est la maladie qui vient en deuxième position après la malaria. Donc ici, c'est beaucoup plus les régimes. Les régimes, lorsque on mange trop gras, trop salé, trop sucré, on est exposé à ces maladies cardiovasculaires et surtout les sédentarismes, ce mode de vie où la personne quitte chez soi, la personne est au bureau assise toute la journée. Il rentre, il dort. Alors tout ça, ça fait qu'on puisse développer ces maladies. Et comment les prévenir? Ce sont les exercices physiques, au moins 30 minutes de marche les jours, et éviter de manger tout ce qui est gras, tout ce qui est salé, tout ce qui est sucré.
La société civile de Kasindi tire la sonnette d'alarme face à la consommation incontrôlée des boissons fortement alcoolisées chez les jeunes. Au moins 3 décès ont été enregistrés au cours du dernier trimestre de l'année 2025 dans cette cité frontalière située à près de 90 km au nord-est de Beni. Selon cette structure citoyenne, le dernier cas remonte à lundi dernier dans le quartier Mapati. Elle appelle les jeunes à la prise de conscience et demande aux services compétents de renforcer les contrôles, notamment aux frontières. Paul Zaidi, rapporteur de la société civile du groupement Basongora, s'exprime au micro de Marc Marot.
C'est une désolation lorsque les jeunes seront à mesure de se livrer à la consommation excessive de boissons élevées en teneur d'alcool. Et voilà, le dernier trimestre de l'année 2025, nous avions comptabilisé plus de 3 cas de décès liés à la consommation de boissons fortement alcoolisées. Nous appelons la jeunesse à s'abstenir, à consommer ces boissons parce que le producteur de ces boissons ne possède aucune vision qui est celle de détruire la jeunesse congolaise, mais également nous interpellons la conscience des commerçants qui continuent à privilégier le commerce de ces boissons fortement alcoolisées. Nous interpellons la conscience des commerçants, mais également des services étatiques et des services militaires, que ces services puissent commencer à mener des contrôles dans différents endroits qui regroupent des jeunes pour voir si réellement ces produits qui sont prohibés ne sont pas commercialisés.
Actualité internationale.
C'est ce soir que sera connu le tableau final des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue depuis 2 semaines au Maroc. 6 équipes sont déjà qualifiées à ce prochain stade de la compétition, à savoir le Sénégal et le Mali qui joueront l'un contre l'autre en quart de finale. Le Cameroun qui croisera le fer avec le Maroc. L'Égypte qui attend le vainqueur du match d'aujourd'hui 20h entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et le Nigeria qui lui devra batailler avec le vainqueur du match qui se joue en ce moment même entre la RDC et l'Algérie.
L'invité.
Notre invité nous vient de Kindu. C'est le secrétaire exécutif du Conseil provincial de la jeunesse du Maniema. Maître Rajabu Moutindi Ferdinand s'exprime sur les conclusions de la table ronde que le Conseil provincial de la jeunesse du Maniema a dernièrement organisée à Kindu pour faire un état des lieux de plusieurs secteurs de cette province. Maître Rajabu Moutindi Ferdinand s'entretient avec Florence Kiza.
Radia Bobotindi Ferdinand, bonjour.
Bonjour, madame Florence Kizazunga.
Vous avez fait l'autopsie de la province d'Imanimon depuis qu'elle a été province. Cela au cours d'une table ronde que vous, conseil provincial de la jeunesse, vous avez pu organiser. Qu'est-ce qui a été comme résultat de cette autopsie?
Merci, madame Florence Kiza. Ce qui a été comme résultat, parce que après 37 ans d'existence de la province d'Imanimon, il s'est constaté que dans plusieurs contextes, que la province d'Imanimon n'avance plus. La province d'Imanimon entre des réquis. Alors, tant que la jeunesse nous sommes dit, nous ne sommes pas là seulement pour critiquer, mais nous devons aussi également proposer des pistes, des solutions. Alors, nous avons pu constater dans les contextes politiques, dans les contextes éducation, dans des contextes culture, tourisme et cohésion, et si les plans économiques, rien n'avance. Alors, il a été plus question que nous puissions proposer des pistes, des solutions aux animateurs des différents secteurs. Et voilà pourquoi nous avons réuni toute la jeunesse de ces territoires, puis la ville de Kindu.
Et quand vous avez réuni ces jeunes, vous avez constaté que tout n'avance pas. Quelles sont ces propositions, des solutions que vous avez pu donner?
En tout cas, les propositions sont nombreuses, mais néanmoins, je vais passer en revue certaines recommandations phares. D'abord, nous avons pu constater au niveau aussi les plans éducation et emploi, nous avons pu recommander à l'exécutif provincial d'abord de créer un centre de formation de la jeunesse. Et ce centre de formation va aider la jeunesse de pouvoir commencer à former certains jeunes délaissés, certains jeunes qui se retrouvent dans beaucoup de mouvements insurrectionnels. Nous avons pu exhorter au gouverneur des provinces de Sissoire de prendre des décisions signant les arrêtés créant les différentes écoles qui ne respectent pas les conditions. Parce qu'il se constate qu'il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas de bâtiments, qui ne respectent pas des conditions et ils sont bénéficiaires des arrêtés. Et bon, nous n'allons pas quand même hypothéquer l'éducation de la jeunesse. Il faut que les gouverneurs puissent recevoir ces décisions. En signant, il doit voir dans la mesure du possible les bénéficiaires de ces décisions puissent respecter les conditions au préalable. Et puis nous avons pu présenter certaines recommandations sur le plan politique. Nous avons demandé d'abord au gouverneur des provinces dans les prochains gouvernements, de pouvoir nommer un jeune qui se trouve dans le mouvement de la jeunesse au poste du conseil principal. Parce qu'il constate que son prédécesseur avait nommé également un jeune qui avait représenté la jeunesse au niveau du gouvernement provincial. Et sur le plan politique également, nous avons recommandé aux partis politiques qui utilisent la jeunesse abusivement. Parce qu'il se constate que lorsqu'il y a un mouvement des jeunes, il y a des meetings, les partis politiques utilisent les binaires. Alors nous, étant que les responsables de la jeunesse, nous sommes dit, nous allons nous y mettre au travail. Une fois constaté qu'on utilise les binaires, en tout cas, nous allons montrer que non, nous allons certains responsables des partis politiques qui utilisent la jeunesse, les mineurs abusivement. Mais aussi, on a recommandé à ces partis politiques qui utilisent les jeunes délinquants, en tout cas des CC, parce que trop c'est trop, nous devons nous prendre en charge. Et puis, si les plans politiques, on a essayé d'interpeller la conscience de nos députés provinciaux. Parce que nous constatons avec Amertime, il y a des guerres entre eux. Et ils ne placent pas l'intérêt de la population en avant. Alors, nous nous sommes dit, ils doivent cesser de guerre et placer l'intérêt de la population d'une manière en avant. S'ils ne trouvent pas des solutions, en tout cas, certains députés vont se voir être bénéficiaires des pétitions.
Mais notamment lors de votre table ronde, vous avez pu lancer un message.